À la une en Israël ce matin, Lise, nous allons nous intéresser au rôle que l'Iran joue dans la guerre à Gaza, et ce, avec votre invité.
Oui, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Ori Sahar, ancien de l'unité 8200 et spécialiste de l'Iran, également membre des Bitronis Team, les sécuritaires. Hello, Ori, thank you for being with us this morning.
Hello, thank you so much for having me. On peut très bien se conversation en français si vous voulez.
Ah, mais fantastique, je ne savais même pas que vous parliez français, Ori. Alors, comment alors, expliquer... Oui. Très bien, encore mieux. Comment expliquer, Ori Sahar, que finalement, l'Iran ne tire pas toutes les ficelles de cette guerre à Gaza? On pensait que l'Iran donnait tous ses ordres au Hamas. Et visiblement, on voit dans cette guerre que l'Iran est un peu plus en retrait.
Alors, je dirais que, à mon avis, il y a deux scénarios. Soit l'Iran savait, soit l'Iran ne savait pas à propos de l'attentat du Hamas. Et à mon avis, il est bien possible, visiblement, l'Iran a été un peu choqué après l'attentat. Je pense que ce n'est pas forcément le cas que le Hamas a coordonné ce massacre, cet attentat avec l'Iran. Mais malgré le fait qu'il faut bien garder à l'esprit, malgré le fait que l'Iran est le patron en fait, du Hamas depuis des années, hein, depuis tant d'années, ça fait des années que l'Iran est en train de financer et vraiment aider le Hamas à construire ses armes, etc. Alors là, même si l'Iran ne savait pas sur la date de 7 octobre, il est bien possible que l'Iran, que l'Iran a financé et armé et entraîné le Hamas pour ce genre de scénario, envers ce genre de scénario. Alors, le deuxième scénario, à mon avis, c'est l'Iran savait, sur la date précise, mais le but était d'empêcher en fait la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. On garde bien en esprit que à l'ONU, juste un mois avant l'attentat, Netanyahou a dit qu'effectivement l'Iran va tenter d'empêcher forcément l'accord, la normalisation qui est en train de se former entre Israël et l'Arabie Saoudite, et l'Iran a même averti les pays arabes de ne pas y aller. Donc, les deux scénarios sont possibles, à mon avis.
Est-ce que c'est uniquement les États-Unis, avec leur soutien très clair à Israël, avec les porte-avions dans la région, qui ont stoppé, en fait, le fait que cette guerre ne devienne pas tout de suite une guerre multifront, or?
Alors là, il faut, à mon avis... considérer le fait que en fait c'est la force qui empêche la guerre et non pas l'inverse, c'est-à-dire si ces ports d'avions comme vous l'avez dit des États-Unis sont présents sur place dans la région, à mon avis c'est ce genre d'élément de dissuasion qui va empêcher la guerre, non pas l'inverse. L'Iran se voit pas très bien le message, mais il faut se poser la question, est-ce qu'on veut éviter une guerre en multifront? À mon avis, ce n'est pas une mauvaise idée. Ça peut être une erreur choquante, mais pensez sur le fait qu'en fait, il y a aujourd'hui un moment historique qui ne va pas revenir. Un moment, une occasion qu'il faut peut-être utiliser. Une occasion d'aller ôter cette carte de Hezbollah de la table, de faire face à l'Iran, peut-être faire pression sur l'Iran pour de ce programme nucléaire. Et peut-être aller éliminer Hezbollah et finalement, étant vu cette incontrôlable construction de force qui est juste à l'autre côté du clôture entre Israël et le Liban. Et donc, l'élément américain va peut-être empêcher la guerre, mais à mon avis, il faut dire la vérité aux Américains, il faut dire la vérité aux Européens, qu'on ne pourrait plus supporter ce genre de menaces en provenance de Hezbollah et de l'Iran pour très longtemps.
C'est ce qu'on entend d'ailleurs dans les propos de Yoav Gallant hier soir, hein, Ori Sahar. On termine à Gaza et ensuite on sait bien que ou il y aura un accord sur le nord ou alors on devra aller nous-mêmes repousser les terroristes du Hezbollah de la frontière, puisqu'aujourd'hui les habitants du nord ne sont pas chez eux, ils sont évacués.
Absolument, je suis absolument d'accord avec Yoav Gallant et aussi avec Netanyahou et Herzi Halevi. Ils ont tous dit qu'ils ont mis en garde, en fait. Le Hezbollah n'est pas initié à une guerre, n'est pas entré pleinement dans la guerre. Mais personnellement, si j'étais cette résident de Metula ou Shtula ou Shlomi ou Margaliot ou ces gens de localités dans le nord, personnellement, je ne saurais pas si je reviendrai chez moi. Vous comprenez que ce genre de menace de Hezbollah, les gens qui vivent là-bas vivent sur la clôture. Ils vivent, vous savez, ils sortent de chez eux, ils regardent Hezbollah. C'est en distance de 50 mètres. Donc, à mon avis, vu l'expérience terrible du Sud, avec ce genre de délité d'unité de Hamas qui ont pénétré les localités qui ont été situées quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres, quelques kilomètres de clôture, je pense pas que les résidents du Nord vont revenir chez eux. Ah, si
On
c'est
a
pas là, n'est
l'impression,
pas.
or, que l'Iran essaye d'économiser un peu les forces du Hezbollah, dans cette guerre.
Ah, encore une fois, pardon?
Oui, je vous disais, on a l'impression que l'Iran essaye d'économiser les forces du Hezbollah dans cette guerre.
Oui, et là, pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que, en fait, Hezbollah a été construit à l'avance comme un bouclier iranien, quand même. Donc, on garde à l'esprit que, en fait, le Hezbollah a été construit, a établi à l'avance pour empêcher ou dissuader Israël d'un scénario d'attaquer l'Iran. C'est vrai que le Hezbollah, dans les années 80, il a été pris comme le défenseur du Liban, hein, quand même, contre Israël et pour essayer de forcer la main d'Israël et sortir du Liban, c'est vrai. Mais par la force des choses et au fil du temps, en fait, il a graduellement acquis le rôle d'un bouclier iranien. C'est-à-dire, Israël sait très bien que si Israël envisage d'aller faire une frappe préventive contre les installations nucléaires à l'Iran, forcément, c'est Hezbollah qui va être opéré avec plus de 150 000 missiles et roquettes, et missiles précises et drones qui vont être lancés sur Israël. Et Israël sait très bien que c'est un prix très, très haut pour sa société. Alors, dans ce cas-là, c'est un élément supplémentaire, disons, avant de considérer d'attaquer l'Iran. Alors, ça, c'était le but de Hezbollah.
Et en attendant, cette guerre, elle arrange bien l'Iran, Ori Sahar, parce que comme ça, ils peuvent continuer tranquillement leur programme nucléaire, hein, et il n'y a pas de négociation et personne ne s'occupe de ce qu'ils font.
Absolument, et ça m'inquiète terriblement, il faut que je vous dise. C'est ce genre de scénario où tout le monde, les yeux de tout le monde sont sur Gaza. Et en fait, dans ce moment-là, à mon avis, le problème le plus pressant, c'est le programme nucléaire de l'Iran. Il faut bien garder à l'esprit que l'Iran est en train de développer un programme nucléaire militaire avec un objectif ouvertement déclaré d'annihiler l'État d'Israël. Le leader iranien le dit, les chefs de militaires iraniens le disent. Jordan a dit qu'Israël, c'est un cancer, hein, qu'il faut ôter de la région. Alors, dans ce cas-là, il faut peut-être il faut éviter un scénario où l'Iran joint l'acte à la parole. Hein, et dans ce cas-là, on serait dans un très, très grand problème. On peut pas accepter un scénario d'un Iran nucléaire dans le Moyen-Orient. Ça va inévitablement mener à une guerre régionale et il faut, à mon avis, c'est pas des négociations diplomatiques qui vont mener à empêcher ce genre de scénario et avec le régime iranien qui est pas très fameux pour garder ses engagements, mais peut-être à mon avis, ce serait une pression militaire, une menace crédible. De pression diplomatique et économique. Et dans ce cas-là, l'Iran peut-être sera convaincu que le prix ne vaut pas le coup. Il ne faut pas, comment dire, break out, développer des armes nucléaires.
Ma dernière question, Henri Sahara, vous qui avez été ancien de l'unité 8200, le cyber n'a pas l'air d'être très présent dans cette guerre à Gaza. Est-ce que c'est une fausse impression? Et à part le jour même du 7 octobre, est-ce qu'il y a eu depuis des cyberattaques contre Israël?
Bon, écoutez, je pense que le renseignement et les unités pertinentes, le Shin Bet, etc., vont faire une interrogation profonde sur ce qui se passait avant le 7 octobre et comment ça se fait qu'on ne s'est pas préparé pour ce genre de scénario. On a préparé, mais non pas pour un scénario de tous contre tous. Vous savez que toutes les localités et
Oui.
toutes les bases se soient attaquées à la fois. Et dans ce cas-là, vous savez, à mon avis, je suis assez choqué. Je le dis très franchement, que ce genre d'attaque n'était pas anticipé, n'était pas envisagé. On avait été peut-être sous l'impression que le Hamas a été dissuadé. Moi, personnellement, non. Ni l'IDF, le Abikronis, qui est notre mouvement, on a en fait donné un rapport assez détaillé aux dirigeants politiques, aux militaires, etc., en disant que voilà, le Hamas n'est pas dissuadé. En fait, il est en train de construire sa force pour ce genre de scénario. On n'a pas détaillé ce genre d'atrocité, bien évidemment, mais l'objectif du Hamas, on savait très bien, était d'annihiler Israël, mais pas vous savez, le financement, l'aide financière de Qatar, ou bien peut-être élargir le nombre d'ouvriers de Gaza qui entrent Israël chaque jour. Ça, ce n'est pas l'objectif du Hamas. Et je pense que le système véritablement croyait que le Hamas a été dissuadé. Et étant donné ça, et on peut peut-être envisager le pire attentat qu'on peut envisager, c'est le genre d'attentat qu'on avait eu avant le 7 octobre. C'est-à-dire, on peut être préparé pour les guerres du passé, non pas pour la guerre du futur.
Merci beaucoup, Or Issachar, ancien de l'unité 8200, spécialiste de l'Iran et membre des Bitronistim, les sécuritaires. À très vite et bravo pour votre français. J'ai fait une grande découverte ce matin, Or.
Merci, merci beaucoup, je vous remercie.